La résolution sincère de les éviter à l'avenir. Voyez. Vous êtes là et bon, alors je vais prendre l'exemple. Voyez, vous êtes un jeune adolescent, vous avez 16-18 ans, vous avez les hormones qui montent, comment dire, dans les étages et vous avez, comment dire, vous n'arrivez pas à maîtriser votre, comment dire, votre sensualité, votre explosion et vous faites des actes, comment dire, vous recherchez le plaisir sexuel seul, ou même vous allez voir des prostituées. Vous allez sur Internet pour voir comment ça se passe, voyez, entre un homme et une femme. Alors que, bon, il n'y a jamais eu de cours d'éducation sexuelle, et je peux vous assurer que pendant des siècles, les hommes et les femmes ont su comment ça se passait. Voyez. Et puis s'ils le découvraient au moment comment dire, au jour du mariage, eh bien, ils le découvraient. Voilà. Enfin, en règle générale, vous voyez, comme 95% des gens vivaient à la campagne, ils avaient bien vu les animaux le faire. Sauf que, eux, vous voyez, ils se disent, mais moi, j'ai l'impression que je ne vais pas abandonner les bébés quand ils seront sevrés. Et j'ai l'impression que mes petits, hein, ils vont m'aimer même quand je serai grand-père ou grand-mère. Donc, on n'a pas une sexualité d'animaux. Il doit y avoir un truc en plus. Oui, ce truc en plus, c'est la fidélité à travers les années. C'est l'éducation des enfants qui peuvent naître de nos unions sexuelles. Alors du coup, la sexualité animale humaine prend une autre dimension. Et on se rend compte que c'est pas seulement de déclencher le plaisir. Alors du coup, on se dit, ben oui, alors c'est enfin c'est difficile. Parce que c'est un plaisir qui est intense et que je voudrais rechercher de temps en temps pour me déstresser, par exemple. Oui. Eh ben non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour que vous soyez heureux d'accomplir l'acte sexuel avec votre épouse ou votre époux. C'est une intensité dans le plaisir qui accompagne le don de la vie ou la possibilité de donner la vie. Alors vous avez les encyclopédistes et autres libertaires qui disent, mais quel Dieu cruel quand même! Il nous a donné comme ça une sexualité animale et on ne peut pas l'assouvir à volonté. Il faut que ça soit uniquement pour transmettre la vie dans un amour spirituel avec son époux, son épouse. Mais c'est vraiment une torture. C'est chinois. Oui, mais enfin les Chinois, ils sont intelligents. Et quand ils torturent, c'est pas pour nécessairement pour le plaisir, mais comme dit Trump, pour avoir la vérité. Trump, lui, il met la tête sous l'eau, hein, dans la baignoire. Eh ben non, Dieu n'use pas de son intelligence pour des raffinements. Il use son intelligence pour nous tirer vers le haut et pour aussi que nous apprenions par ses faiblesses à reconnaître. Que nous avons des efforts à faire pour aimer. Oui. Ben oui, mais je ne suis pas marié. Eh ben, des efforts pour surmonter votre sensualité, surmonter votre nervosité, votre tempérament, pour aimer. Ben oui, mais pas mon épouse. Ben oui, pour aimer vos parents, vos frères et sœurs, pour ne. Parce qu'il y a, si vous voulez, en effet, dans notre corps des puissances, non seulement, comment dire, de sensualité, mais des puissances de nervosité. Il vaut mieux faire des pompes et de la boxe plutôt que de frapper, comment dire, son voisin. Vous voyez? Ah oui, moi je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je me dépense, donc je sonne chez mon voisin et je bam, un coup de coude, coup de tête et tout, et je le tabasse jusque. Ben non, si vous le faites, vous voyez, ben vous allez en prison. Alors vous allez plutôt faire des pompes, prendre un punching ball, et ça devient du sport. Alors vous voyez, je plaisante trop, mais voyez-vous, il y a dans tout cela. La volonté de dominer son corps, mais de dominer aussi toutes les puissances de son âme. Alors dit comme ça a l'air simple et drôle, hein, mais à vivre, c'est plus compliqué, c'est vrai. La résolution sincère de les éviter à l'avenir. Mais même si vous rechutez, vous voulez ne pas être faible. Oui, mais c'est humiliant. Eh bien, confessez-vous moins souvent. Ah oui, mais c'est... Maintenant, on communie à toutes les messes. Alors, qu'est-ce que j'ai passé pour... qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tiens, il communie pas. C'est un qui... Oui. Alors, interprétation bénigne entre jeunes garçons. Oh, il s'est saoulé hier. Voilà. Parce que le fait de boire excessivement, au point de ne plus savoir comment on s'appelle, est un péché grave contre notre intelligence, notre conscience et notre santé. Oui. Eh bien, reconnaître ses torts, non plus à un sage, mais à un prêtre, non pas seulement à ses grands-parents. Vous voyez, comme pendant... Je suis sûr qu'à travers le monde actuellement, vous avez des personnes qui trouvent une oreille attentive à qui ils disent leur faute, et leur mal-être, sans passer nécessairement par un psychanalyste qui leur demande de 80 € pour 30 minutes. Ça, c'est des confesseurs chers. Non, là, c'est surnaturel, c'est... Et en effet, voyez-vous, vous pouvez vivre ça comme une humiliation, mais normalement, c'est une humilité. Non pas de la fausse humilité et du misérabilisme, mais de la vérité. Oui. Ah, mais je comprends pas, voilà, quand j'étais jeune, on m'obligeait à me confesser, alors j'inventais des péchés, voilà, pour faire plaisir au curé, je disais que j'avais menti alors que j'avais pas menti, j'avais fait des caprices alors que j'avais pas fait des caprices. Ah bon? Vous aviez 8 ans et vous n'aviez pas fait de caprices? Mon œil. Vous inventiez des péchés? Ouais. À mon avis, vous ne les inventiez pas autant que ça. Oui, mais non, tout ça. Et puis après, le prêtre, on a l'impression, je sais pas, voilà, quand les personnes ont 12, 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils vont poser des questions sous la ceinture. Ben oui, mais si vous voulez, il y a des mauvais prêtres, en effet, qui, puisque au séminaire, on nous dit, ne soyez pas libidineux. Posez toutes les questions que vous voulez, légères, avant éventuellement de se dire, tiens, quand même, il a 22 ans, il dit, tout se passe très bien. Vous voyez, je suis célibataire, tout va bien, non, 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 j'ai pas de tentation particulière, en ce qui concerne ces demoiselles ou autres, voilà. Et là, il faut peut-être lui demander, faites attention, voyez-vous, ne prenez pas l'habitude de rechercher le plaisir sexuel seul, ou sur Internet, ou par des images, parce que ça abîme en vous la maîtrise qu'il y a pour votre corps, pour votre future épouse. Et aussi la considération de l'importance comment dire, de l'expression de l'amour dans l'acte sexuel. Et aussi du lien qu'il y a aussi avec la transmission de la vie, par rapport au préservatif, par rapport à la contraception. Et voilà, c'est... Mais voyez-vous, les vieux prêtres ou les jeunes prêtres hein, faisaient l'éducation sexuelle des jeunes gens en confession. Dans une plus grande discrétion. Pas forcément, si vous voulez, au catéchisme. Mais oui, mais c'était hypocrite, tout ça. Maintenant, ça va être fantastique. Dès l'âge de 6 ans, on va dire, voilà, hein, les enfants, alors vous voyez, vous avez ça sert à ça, et tout ça, et vous pouvez même le faire comme ci, le faire comme ça. Si vous voulez être un garçon, si vous voulez être une fille, tout ça c'est par ici et c'est par là. Je dis, les enfants, ils sont là, Jésus me dit, le monsieur. Vous voyez? Et là, il y a Jésus, il est là, il dit, ouh, il n'est pas content, Jésus. Oui. Le jour où il y aura l'éducation sexuelle à 6 ans dans toutes les écoles, hein, eh ben, à mon avis, hein, vous pourrez observer le ciel, parce que s'il y a une météorite de 30 km de diamètre qui arrive sur la Terre, vous ne faites pas semblant de ne pas comprendre pourquoi. Parce que Jésus, il ne va pas tolérer qu'on salisse les âmes comme ça. Hein. Si vous voyez une croix dans le ciel arriver, oh tiens, 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 dans l'Apocalypse, il dit, et vous verrez le signe de l'homme. Voilà, et ben voilà, je dirais, ben, c'est cuit, c'est fini, voilà. Je ne pourrai pas terminer ma maison ou racheter le crédit. Jésus arrive. L'accusation des péchés, au moins grave, Regardez, là, voyez, ils ont beau être tradis, puritains et jansénistes, là, ils disent l'accusation des péchés, au moins grave. Pourquoi? Mais vous n'êtes pas obligé de confesser vos péchés véniels. Enfin, si par piété vous confessez tous les mois, ça va être un peu. Et si vous ne faites pas de péché grave, vous êtes là et dites, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Enfin, je ne me sens pas obligé de vous dire des fautes légères. Oui, bon. Vous avez. Non, ben non. Oui, bien. Bon, ben voilà. Voili voilou. Voilà. Alors, vous n'avez pas menti, vous ne vous êtes pas mis en colère un peu. Oh, mais ça, je ne vais pas vous le dire en confession particulièrement. Ça peut m'être remis par un Notre Père dit pieusement ou une communion pieuse. Oui, c'est bien, c'est vrai. Vous connaissez bien votre catéchisme. Enfin, alors pourquoi vous êtes là? Mais si vous voulez, quand vous confessez vos péchés véniels, vous avez le pardon divin sur le péché véniel, direct et certain. Tandis que quand vous regrettez vos colères, vos exaspérations en disant à notre Père pieusement, c'est vos mérites et la miséricorde de Dieu. Dans la confession, il y a une promesse divine de vous pardonner certainement, même si vous n'avez pas la contrition parfaite. Mais ce qu'on appelle l'attrition, c'est le regret imparfait de vos fautes. Le bon Dieu vous remet votre péché véniel directement et certainement. Et même par les mérites de votre confiance dans ce sacrement, il vous remet les conséquences et les effets de votre péché. Mais là, plus dans la mesure, dans un degré de votre regret. Mais plus que en dehors de la confession. Vous voyez, il y a une grâce particulière à prendre à témoin un serviteur de Dieu qui a donné sa vie pour être représentant du Christ sur terre. Il y a une grâce particulière qu'on appelle une grâce sacramentelle. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que moi, quand je confesse les religieuses de l'avenue de Villiers, les sœurs franciscaines de Jésus, les sœurs franciscaines réparatrices de Jésus hostie, dont les petits pieds dépassent du tabernacle. Voyez, ça c'est la, c'est la. Vous voyez, il y a parfois des instituts féminins qui avaient des noms à rallonge extraordinaires. C'était la piété populaire de l'époque. Leur sœur réparatrice de Jésus hostie, c'est leur vrai nom. Eh bien, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle épousseter des statues. Et vous avez des magnifiques statues de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse, de tout ça. Et puis vous avez parfois de la poussière dessus. Alors vous prenez un plumeau et plou 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 plou. Et sur une âme de religieuse qui a donné sa vie, qui vit en communauté, qui est polie par tout ce don de soi, ben, des péchés mortels, c'est rare, quoi. Ah, celle-là, hein, elle vacharde avec moi, tiens, je vais lui faire un croche-pied au début de l'escalier, là, et éliminer. Donc là, c'est un péché grave. Vous avez Sœur Marie-Claire qui est tombée dans l'escalier. Bon, elle avait 75 ans, on ne sait pas trop. Et en fait, hein, c'est Sœur Marie-Antoine qui l'a. Tiens! Un bon coup derrière et là. Et là, pour le coup, ça vaut la peine d'aller confesser. Et vous vous dites, bénissez-moi mon père parce que j'ai péché, j'ai tué Sœur Marie-Claire. Mais pourquoi? Elle était très désagréable avec moi, elle m'humiliait en public. À chaque récréation, elle avait toujours un mot désagréable. Alors comment on répare, hein, un meurtre au couvent? Et tout a l'air d'un accident. Est-ce que je vais lui dire, ben, dénoncez-vous? Ça serait un scandale, vous voyez. Et par contre, je lui ai imposé une pénitence pour ce péché mortel. Et proportionnée, normalement. Mais est-ce que je vais lui demander de se dénoncer pour qu'il y ait une réparation publique de son péché? Mais pas forcément. Ah, mais c'est affreux, comment les prêtres peuvent faire ça et tout. Vous avez un pédophile qui se confesse. Là, un jour, on ira en taule pour des faux pédophiles qui viendront se confesser à nous, qui diront ensuite qu'ils ont été pédophiles, qu'ils s'étaient confessés. Nous, on l'a pas dit, machin. Enfin, on pourra faire plein de choses pour mettre des prêtres en prison. Il y a de quoi faire. Mais si un vrai pédophile se confesse, je lui dis, vous venez vous confesser parce que vous avez peur de vous damner devant les horreurs des péchés que vous commettez. Vous avez peur que le Christ, que le Sacré-Cœur ne vous pardonne pas. Vous demandez son pardon en confession. Et vous savez qu'il y a le secret de confession. Eh bien moi je suis tenu au secret en effet et je ne peux pas le dénoncer. Alors vous allez me dire, mais c'est affreux, c'est horrible. Oui mais pourquoi vient-il se confesser? Il a peur de se damner. Alors moi qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je ne peux vous donner l'absolution que si vous vous dénoncez. Parce que vous êtes un homme dangereux, terrible. Je vous oblige à vous dénoncer, au moins dans une institution de soins, pour que vous soyez interné et soigné. Sinon, je ne vous donne pas l'absolution. Et vous vous damnez. Parce que moi, je vous juge. Et en tant que prêtre, je vous retiens votre péché. Et si vous mourrez tout à l'heure, vous irez en enfer, probablement. Ensuite, miséricorde de Dieu, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu m'a donné la mission de vous juger. Et moi, je juge que vous ne méritez pas l'absolution. Et vous allez vous damner, probablement. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais il faut préserver cette possibilité. Parce que l'assassin qui se confesse, il faut qu'il puisse avoir un lieu au monde où il aura la consolation du pardon. Parce que quand c'est une femme qui a avorté, là, plus personne ne réagit, plus personne ne se scandalise. C'est plus un pédophile, c'est plus un assassin, c'est une femme qui a avorté dans la détresse. Mais il y a des femmes qui n'avortent pas en détresse, qui ont avorté deux, trois fois parce qu'elles ne voulaient pas l'enfant, parce que il y a des femmes qui ont avorté parce que c'était au début de l'été, hein, c'est véridique. Vous avez une féministe militante qui a mis sur sa page Facebook qu'elle a avorté parce que c'était un garçon. Et imaginons que ces personnes se convertissent. Eh bien, elles sont bien contentes d'avoir le pardon certain de Dieu. Pas seulement dans leur prière personnelle, face à face avec Jésus, cœur à cœur avec Jésus, mais qu'un prêtre, qu'une humanité de surcroît du Christ, qui parle comme dans l'incarnation, et qui leur dit, vous regrettez vraiment? Eh bien, là, voyez-vous, vous êtes tous d'accord pour vous dire, ah ben c'est une bonne chose de garder le secret. On va pas dire, je vais vous demander dimanche prochain d'aller au micro et de dire, j'ai avorté et j'ai reçu le pardon. Oh, vive Dieu, alléluia. Non, la personne, elle va pas facilement dire qu'elle a avorté. Et quand c'était un crime, je ne sais pas, quelqu'un qui avorte dans les années 1925, c'était puni de la peine de mort, hein. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc les prêtres qui confessaient une femme qui avait avorté, est-ce qu'ils allaient lui dire, ah, je ne vous donne pas l'absolution si vous n'allez pas voir le procureur de la République pour vous dénoncer? Ah non, là tout le monde en 2017 dit, ah ben non, ben non, 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 puisqu'elle le regrettait, c'est face à Dieu. Avec Dieu. Non, non, il ne fallait pas lui demander de se dénoncer. Non, en effet, on ne demande pas à une femme qui a avorté en 1925 de se dénoncer. Mais par contre, on lui demandait de faire une pénitence parce qu'elle avait tué son enfant. Et puis là-dedans, on oublie les hommes. Il y a des hommes qui supplient leur femme de ne pas avorter, mais il y a des hommes qui poussent leur femme à avorter. Ben, ils sont aussi coupables que la femme qui avorte. Et une femme qui avorte avec les pressions familiales terribles ou peut avoir sa responsabilité diminuée. Enfin voilà, ça c'est la réalité de la confession. Hein. L'accusation des péchés au moins grave à un prêtre approuvé, tenant la place de Dieu. Normalement, le prêtre doit être légalement dans un diocèse ou dans un institut reconnu par l'Église catholique. Lorsque vous avez un vieux schisme comme l'orthodoxie, le sacrement de confession est valide entre orthodoxes. Un prêtre orthodoxe qui confesse un orthodoxe, il y a rémission du péché et des peines du péché dans la mesure du regret. Il donne validement le sacrement de confession. Mais par contre, un catholique ne peut se confesser validement auprès d'un prêtre qui n'est pas en paix avec l'Église catholique que s'il est en état de nécessité. Un catholique qui se retrouve en Grèce et qui ne trouve pas de paroisse catholique peut se confesser à un prêtre orthodoxe. Mais en général, le prêtre orthodoxe va lui dire « Va en enfer, pauvre type ». Donc là, forcément, ou « Deviens orthodoxe et à ce moment-là, je te confesse ». Ils sont beaucoup plus durs, les orthodoxes. Et nous, on admet le mariage entre un catholique et un orthodoxe. Les orthodoxes purs et durs n'admettent pas le mariage entre un orthodoxe et une catholique. Ou une catholique et un orthodoxe. Parce que nous sommes vilains, il y a eu le sac de Constantinople, les Vénitiens étaient des catholiques et ont un péché imprescriptible parce qu'il y a eu le sac de Constantinople. Voilà. Ça fait 800 ans, on se dit, mais mince, ils ont la mémoire longue.
On peut leur rappeler qu'en 1182, ils ont bien massacré pas mal de latins, les Grecs.
Oui, mais c'est fini. Donc, maintenant, la Vierge Marie à Fatima nous dit il faut que les orthodoxes, que les Russes, aillent à mon cœur immaculé. Or, les orthodoxes ne reconnaissent pas l'Immaculée Conception. Lorsqu'ils reconnaîtront l'Immaculée Conception, le cœur immaculé de Marie, Notre-Dame de Fatima, eh bien, les libertaires ont du souci à se faire. Quand ils verront les orthodoxes devenir catholiques, je vous assure que ils attaqueront Poutine encore plus. Poutine devenu catholique, alors là, ça sera la quintessence d'Hitler, Staline et Mao réunis. Le sacrement, alors, l'absolution donnée par le prêtre au nom de Jésus-Christ, absolution, il dissout le lien de votre péché. Et l'accomplissement de la pénitence qu'il a imposée, c'est satisfaire, réparer aux conséquences de votre péché. Et vous allez me dire, mais il y a des prêtres qui ne me donnent pas de pénitence. La pénitence sacramentelle est une réparation qui est dans l'ordre du sacrement. Elle est plus méritoire que la réparation que vous faites. Je prends mon exemple favori. Vous avez un enfant qui joue au foot avec ses petits copains devant une boulangerie. La boulangère sort et dit « Arrêtez !» Le ballon va percuter la vitre et vous avez plein de morceaux de verre qui vont tomber dans les gâteaux. La vitre sera cassée, les gâteaux, toute ma production de ce jour-là devra être jetée, enfin voilà. Par insouciance, il continue à jouer. Et je corse un peu l'histoire, et il y en a un qui gonfle le ballon plus dur, et dit, cette boulangère, je la déteste, hein, et ben je vais balancer le ballon, et tam, et dans la vitrine, et plein. Et là, bon, les parents arrivent, tout ça, ils payent la vitrine, ils payent tous les gâteaux, voilà. Et puis, une semaine plus tard, il dit, ah non, c'était même pas par insouciance, je l'ai fait exprès. Alors là, les parents qui lui retenaient 50% sur un argent de poche, tu l'as fait exprès. C'est 100%. Hein. Tu n'as plus d'argent de poche pendant 3 ans. Eh bien, lui, il va se confesser. Et il dit tout au prêtre, j'ai gonflé le ballon, il était plus dur pour casser la vitrine exprès. Et le prêtre lui donne un pèlerinage à Lourdes. Non, ça c'est pour des fautes graves. Donc il est parisien, il dit « Va rue du Bac oh, ». C'est moins long, c'est plus facile. Et tu l'as fait exprès, c'est quand même un péché véniel qui peut être grave si tu étais adulte. Hein, parce que ça coûte très cher une vitrine et ses gâteaux. Tu as 8 ans, c'est encore un péché véniel parce que tu as 8 ans. Mais Ça pourrait, c'est, en soi, c'est une matière grave. Parce que ça dépasse 30 euros. La matière grave, c'est 30 euros, 50 euros. Vous volez 10 euros, c'est un péché véniel. Oh, tiens. Tiens, tiens, c'est intéressant à savoir. Et la prochaine fois, vous prenez le porte-monnaie de votre collègue au bureau et vous prenez 10 euros, il dit c'est un péché véniel. Voilà. Et vous prenez 50 euros, c'est un péché grave. L'accomplissement de la pénitence qu'il a imposée, satisfaction, eh bien, le prêtre, eh bien, en faisant son pèlerinage à rue du Bac, il répare plus, parce que c'est dans le sacrement qu'il a reçu cette pénitence à accomplir, voyez, que de ne pas avoir d'argent de poche pendant 3 ans. Vous allez me dire, c'est quand même injuste. Oui, mais il y a un privilège au sacrement. Quoique 3 ans, oui, ça commence à être très méritoire. Vous voyez. Bon. Le sacrement de pénitence produit notre propre mort au péché et notre résurrection à la vie de Dieu. Il prolonge ainsi notre baptême, il revivifie notre baptême et nous prépare à l'Eucharistie, la rencontre directe avec notre Seigneur dans sa présence réelle dans l'hostie. Il doit laisser dans nos âmes une immense joie car c'est un sacrement de vie. Quelques conseils pour bien réaliser son examen de conscience. Par une courte prière, demander à Dieu et à Notre-Dame. Vous dites, oh, c'est de la mariolâtrie. Oh, vous pouvez aussi prier la Vierge Marie. Hein. Elle obtient des grâces auprès de son Fils. Hein. Elle a assez aimé son Fils, elle nous a assez aimé pour qu'on puisse l'inclure dans les prières. Oui, mais enfin, la confession, ce n'est qu'à Dieu Tout-Puissant. Oui, mais c'est pas au grand serpent à plumes ou au soleil des Incas. Hein, c'est à Jésus, c'est au Père, c'est à l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie, alors c'est la quatrième personne de la Trinité? Non. Enfin voilà, vous pouvez passer par la Vierge Marie. Et d'ailleurs, vous avez des personnes qui ont moins peur de la Vierge Marie que de Dieu ou que de Jésus. Donc si ça peut les aider à se confesser, mais qu'ils demandent à la Vierge Marie de demander à Dieu des grâces, de lumière pour bien se confesser. C'est pas la Vierge Marie qui va vous donner les grâces, mais elle peut vous les obtenir. Elle a de l'influence sur son Fils. Par une courte prière, demander à Dieu et à Notre-Dame la grâce de bien connaître les péchés dont on est coupable. Alors regardez, cette formulation, elle est hérétique. Demandez à Notre-Dame la grâce de bien connaître les péchés. En effet, ce n'est pas la Vierge Marie qui va vous faire bien connaître vos péchés. Et bon, il faut un raccourci. Elle demande à son Fils de bien vouloir vous donner cette grâce. S'examiner sur les commandements de Dieu et de l'Église, les péchés capitaux, les devoirs de son État, pour aider le plus d'âmes possible dont les besoins sont très divers, l'examen proposé ci-après est plutôt détaillé. Mais il est rappelé qu'en confession, seule l'accusation des péchés mortels est obligatoire. Un péché est mortel qu'en sachant pleinement que la matière est grave. On l'a néanmoins commis avec un entier consentement. Et là, ils ont oublié la troisième condition, c'est la pleine conscience que c'est grave et qu'on le veut. La pleine advertance que c'est grave. Trois conditions du péché. La matière, grave ou légère. L'advertance, la conscience que c'est un péché. Et la volonté de le faire, le consentement. Je veux voler 5 euros dans le porte-monnaie de ma maman pour m'acheter des bonbons. Je sais que c'est véniel, 5 euros, le curé me l'a dit. Je veux prendre ces 5 euros. Je sais que c'est pas bien de prendre 5 euros sans la permission de maman. Mais c'est trop bon, les bonbons. Et j'ai plein consentement. La matière est légère et vénielle, 5 euros. Je suis conscient que c'est pas bien de prendre de l'argent sans l'autorisation de ma maman. Et je le veux. La matière est légère. Je suis conscient. Je suis averti. l'advertance, et je le veux, j'ai le consentement. Mon père a 85 ans et il ne meurt pas. Je vais l'euthanasier. C'est grave de tuer quelqu'un. Je suis conscient que c'est grave de tuer mon père pour avoir l'héritage plus vite. Mais je le veux, l'argent. Oui. Vous avez fait un péché mortel. Un péché grave. La matière est grave. Vous savez que c'est grave et vous le faites. Matière, l'objet de l'acte, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dire « Mon collègue est alcoolique. » Et c'est vrai. C'est grave comme matière de révéler l'alcoolisme de quelqu'un. Vous êtes conscient que c'est grave. Et vous voulez le dire pour faire renvoyer votre collègue. Alors que son alcoolisme n'est pas dangereux, il est agent de saisie, sur l'échec de l'agence bancaire de Trifouiller les Oies. Alors qui se peinte les naseaux tous les samedis soirs, c'est pas grave pour son métier. Mais vous dénoncez son alcoolisme en vue de le faire licencier parce que vous voulez sa place. Par contre, il est chauffeur de bus. Et vous l'avez vu en bus scolaire prendre le volant avec un coup dans le nez. Eh bien, vous allez voir le supérieur, vous lui dites qu'il est alcoolique, c'est une matière grave, vous êtes conscient que c'est grave, vous voulez le dénoncer, mais ce n'est pas un péché parce que c'est un mal vrai dénoncé proportionnellement. Ce n'est pas une médisance. Et si c'est un mal faux, c'est une calomnie. Alors là, c'est toujours un péché. Mais un mal vrai n'est pas toujours un péché. Vous voyez, à révéler. Matière, advertance, conscience, connaissance. Matière, connaissance de la matière. Acte, connaissance de l'acte et de ses effets et consentement. Ça, c'est le péché. Vous voyez, vous êtes là, vous reculez et vous écrasez quelqu'un. C'est pas un péché mortel. Pourtant, vous l'avez tué. Par contre, si vous n'avez pas regardé dans le rétroviseur et tout ça, c'est un péché véniel. D'avoir tué quelqu'un, ben, oui, mais vous l'avez pas voulu le tuer. Oui. Par contre, vous doublez en côte. C'est un péché mortel. Si vous êtes bien conscient que vous pouvez tuer la personne qui va en face et qui est sur sa voie légitime, vous doublez parce que vous êtes énervé et vous doublez sans aucune visibilité, c'est un péché mortel. Oui, mais vous êtes énervé, fatigué, tout ça. Votre advertance, votre conscience n'est pas pleine. Donc, si un des trois éléments du péché n'est pas plein, voyez, ça peut atténuer le péché. Oui, vous vouliez poser une question.
Oui, quid des militaires qui tuent des hommes à la guerre, comment les jugent?
Eh bien, c'est ceux qu'ils tuent veulent tuer des innocents. C'est de la légitime défense, à grande échelle.
Je parle de guerre mondiale, en fait.
Oui, mais qui êtes-vous pour savoir qui a raison, qui a tort dans une guerre? Il y a des guerres évidemment injustes. Mais il y a des guerres qui ne sont pas évidemment justes ou injustes.
Territoriales, c'est des guerres.
Ben oui, mais... Vous voyez, Adolf Hitler a dit à ses soldats, « La patrie est en danger, je dois attaquer la Pologne parce que la Pologne est dangereuse pour nous. » Et si vous êtes allemand en 1939, dites « Ah ben non !» Je suis objecteur de conscience parce que Hitler, 5 ans plus tard ou 2 ans plus tard, il va faire des atrocités. C'est pas facile, hein, d'être objecteur de conscience dans une guerre.
Il n'y a pas une restriction collective quand on voit les images en 14 ou Tous les militaires étaient à genoux contre les...
Oui, mais ça, l'absolution collective, c'est « je regrette mes péchés, j'ai pas de temps de les dire en détail ». Ça, c'est l'absolution collective.
Donc c'est le cas pour les militaires en groupe.
Oui, et c'est les cas dans un avion qui s'écrase, le prêtre peut se lever et dire « je ne suis pas progressiste, mais faites un acte de contrition et je vous donne une valide absolution ». Parce que vous n'avez pas le temps de vous confesser individuellement. Ou alors, si vous voulez, on a 10 secondes, je vous attends dans la cabine. Alors, un dixième de seconde par personne. Péché, 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 péché. Voilà. Ego te absolvo. Non. Là, l'absolution collective est valide.
Quand je parlais du péché de meurtre.
Ah non, non, non. Ils ne pêchent pas, les soldats. Parce que c'est la légitime défense de la société contre une autre société. Il n'y a pas de péché dans la guerre. Par contre, vous avez un ennemi qui est à terre et qui est agonisant, enfin agonisant, non, qui est blessé, pardon, vous lui tirez une balle dans la tête, vous faites un péché mortel. Et c'est même puni par le droit de la guerre. Mais votre lieutenant, il vous juge, il dit « Oh là, j'ai pas le temps de le mettre en prison, de ça, c'est un très mauvais exemple pour les autres, vous avez tué un prisonnier, donc allez, il prend un sergent et deux caporaux, quelle est la procédure pénale en temps de guerre, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, il mérite la mort, vous êtes condamné à mort, vous dites, hop, et c'est fini. » Et on peut continuer la bataille parce qu'on n'a pas le temps de faire un jugement avec une procédure, un avocat et compagnie, quoi. On le flingue. Mais il ne pêche pas, le lieutenant. Et le peloton d'exécution ne pêche pas. C'est une peine de mort rapide et expéditive.
Mais quel est le fondement du...
Eh bien, un mal grave qu'on doit faire cesser. La peine de mort, dans le catéchisme de l'Église catholique, il vous a dit, elle est légitime et elle est de droit naturel. Mais il faut que ça soit proportionné au danger de celui qu'on tue.
Donc les deux sont absous à chaque fois.
Comment ?
Les deux sont absous à chaque fois. Les
sont absous. Mais Dieu ne retient pas à deux personnes qui se tirent dessus en temps de guerre cet acte-là. C'est des actes de légitime défense d'État à État. Vous voyez ? Par contre, celui qui met du cœur et qui est content et qui est certain que c'est une guerre injuste, enfin, seulement, voyez-vous, ça, on n'est pas dans la confession, on est dans le jugement de Dieu. La confession, il y a un côté jugement du prêtre, mais lié au jugement de Dieu. Et vous voyez, vous avez quelqu'un qui est là, qui a été une crapule toute sa vie, et vous êtes là et il demande pardon, il se confesse au prêtre, et là vous êtes là, c'est quand même, c'est un peu facile de se confesser juste avant de mourir, alors qu'il a toujours mis la haine, la querelle dans la famille, c'est une personne mauvaise, tout ça. Et oui, mais il ment au prêtre. Imaginons, il dit, voilà, oh je vais mourir. Tiens, les curetons, j'ai toujours craché dessus. Mais bon, tiens, je vais l'appeler comme ça, quand même, j'ai du mal à respirer, tout ça. Bon, je sais pas, il dit au curton, j'ai regretté, j'ai trompé ma femme, je sais pas, j'étais un peu méchant quand même dans la famille, j'ai pas de bonne réputation, tout ça. Je m'en fous. Non, mais voilà, rien. Vous voyez, non, mais il se confesse. Le prêtre lui donne l'absolution et il meurt. Et là, il va devant Jésus. Et... Bon, il n'a aucun regret. Le bonhomme, il est en état de péché mortel. Il n'a pas la grâce. Et tous ces crétins que j'ai toujours détestés. Mais là, son âme est sortie de son corps. Et là, il voit son âme. Il voit toute sa vie. Toute sa mémoire est en une seule pensée de son intelligence. Et là, il est devant le Christ. Il ne fait pas « Oh, pitié Jésus, voilà, non, non, non. » Il dit « Non, je te déteste comme j'ai détesté les autres. » Et il est damné. Jésus dit « Voilà, voilà ton âme, voilà mon âme. » Bon, il n'est pas très heureux d'être damné, il crie tout ça, mais seulement si vous voulez, quand on représente les damnés en train de supplier Jésus, c'est faux. Ils ont la haine. Les représentations sont trompeuses sur ce plan-là.